Avant de commencer, je dois vous dire quelque chose. Ce podcast raconte l'histoire vraie d'une enfant morte des suites de violences sexuelles. On a essayé d'en dire presque rien, mais parfois, il fallait en parler. Alors, prenez soin de vous en l'écoutant, s'il vous plaît.
Quelques jours ont passé. La prime de 20 000 francs promise à celles et ceux qui feraient connaître l'assassin de Jeanne a échauffé les esprits.
Résultat, 82 dénonciations calomnieuses sont arrivées vers midi au parquet ou à la brigade judiciaire.
Vérifié, aucune de ces dénonciations ne mène à quoi que ce soit.
L'amour de la prime n'a pas produit d'autres résultats.
Au dernier jour de février, on espère encore le dénouement de l'enquête. Partout est annoncée une importante arrestation, celle d'un triste sire, un individu dont la réputation est détestable.
Mais cet espoir n'aurait même pas duré ce que durent les roses, l'espace d'un matin.
L'individu est relâché. Et alors que toutes les pistes signalées par des témoins s'évanouissent les unes après les autres, qu'un procès est intenté par Françoise Van Calque contre ceux qui ont vendu le portrait de Jeanne dans les rues du pays, que le bassin de Charleroi connaît des inondations plus fortes que jamais, qu'un violent coup de poussière dévaste les mines de Courrières dans le nord de la France faisant plus de 1000 morts, que le carnaval de Bruxelles bat son plein et qu'on y dénombre de multiples bagarres.
Marché au fromage, au cours d'une bagarre particulièrement terrible, un individu a eu le crâne meurtri par des coups de clé qu'une dame, très excitée, lui a administré.
L'affaire de la rue des Hirondelles quitte progressivement les pages des journaux.
Tout à la joie, on a vu des hirondelles et les merles chantent. Le printemps arrive.
Désormais, les hirondelles que je tape dans le moteur de recherche de Belgique à Presse ne renvoient plus à l'affaire. Mais au printemps, qui arrive.
On annonce le retour des hirondelles, les gracieuses messagères, célébrées par les poètes. Et un lecteur nous affirme avoir entendu les rossignols lancer leur première trille.
À la mi-mars, les journalistes révèlent que l'affaire est désormais classée.
Cette fois, c'est bien fini. Le crime de la rue des Hirondelles est virtuellement classé.
Sur le cœur des Belges pèserait alors une douloureuse impression.
La petite victime n'a pas été vengée.
Dans la presse, l'heure est à la critique de la police bruxelloise.
La police a d'autres choses à faire que rechercher l'assassin. Elle est absorbée pour l'instant à la chasse aux chiens errants.
L'ironie est palpable, la déception. Aussi.
On ne cherche plus. N'ayant rien prouvé, on renonce. Le temps où le hasard se chargera de faire découvrir le meurtrier. On s'attendait un peu à cela, on n'en éprouve pas moins de la surprise et du regret.
La justice est aussi sous le feu des critiques.
L'impéritie du parquet a été établie de façon péremptoire. On n'a rien su faire, sauf les gaffes. Et un grand discrédit est tombé sur la justice belge.
C'est toute la société belge qui est déçue. Et ce, jusqu'à la corporation des bouchers.
Dans son numéro du mois de mars, le magazine des bouchers belges s'indigne contre la justice bruxelloise, qui a terni leur réputation.
Ponctuellement, de nouvelles dénonciations mènent à des arrestations et à quelques lignes dans les journaux.
Une racoleuse de petites filles de la gare du Nord est dénoncée, recherchée, arrêtée et relâchée.
Pour un court instant, l'affaire semble alors se déplacer vers la France.
À Lille, on a arrêté un garçon boucher en provenance de Bruxelles, parce que dans une lettre, son ami, une femme aux mœurs légères, lui a demandé s'il avait des nouvelles du crime de la rue des Hirondelles.
Fausse piste encore. À Paris, un haut fonctionnaire de la police belge accorde une entrevue exclusive à un journaliste du Petit Parisien.
Le plus fort tirage de tous les journaux du monde entier. Désolée, ce n'est pas ce que je devais lire.
Tout ce que je pourrais déclarer, c'est qu'une personnalité très connue serait compromise dans cette affaire.
Toute la presse belge se fait le relais de l'interview, qui, soit dit en passant, je n'ai jamais retrouvée. Le lendemain, on apprend que ce n'était que pure fantaisie. Mais ça nourrit la rumeur. Tandis que le parquet la goinfre, à force de se cacher derrière le secret de l'instruction. Et puis vient le mois d'avril. Un mois d'avril particulièrement sombre. À Naples, le réveil du Vésuve sème la terreur sur toute la ville. Le matin du 18 avril, c'est au tour de San Francisco de trembler. Le lendemain, Pierre Curie, connu pour être l'époux de la très célèbre Marie Sklodowska-Curie, meurt écrasée sous les roues d'un camion hippomobile dans le 6e arrondissement de Paris. On pourrait presque croire que la mort de Jeanne n'est plus qu'un lointain et douloureux souvenir. L'affaire de la rue des Hirondelles revient cependant sur le devant de la scène. Sans aucun jeu de mots, littéralement. Au Théâtre Verdi, une pièce intitulée « Le crime d'hier » met en scène la mort de Jeanne. La presse accueille très froidement cette tentative de théâtre dite « d'actualité ».
Sous le prétexte de dramatiser l'affaire, l'auteur du crime d'hier nous a fait assister à un défilé de personnages plus répugnants les uns que les autres.
Le public, lui, n'est pas au rendez-vous. Et en effet, pourquoi aller s'enfermer au théâtre alors que c'est dans les rues et les cabarets de la ville que le spectacle de l'affaire continue de se jouer ?
Tu as entendu ?
Parce que quand la police échoue à résoudre le plus horrible des crimes et que la presse, pendant des semaines, n'a eu de cesse de rappeler les erreurs et les échecs de la police, inévitablement, inexorablement, fatalement, les gens ordinaires cherchent à résoudre le crime.
Il me l'a juré.
Aujourd'hui, c'est sur les réseaux que la rumeur se propage d'un poste à un autre.
Pas possible.
En 1906, à Bruxelles, c'est dans la rue et au cabaret que la rumeur passe de bouche en bouche, jusqu'à ce qu'elle se glisse dans l'oreille d'un journaliste. Et la presse n'en rate pas une. Puissante, voire surpuissante, la presse est à l'affût du moindre bruit. Et depuis quelques semaines, il se dit qu'une rumeur étrange et malveillante court la ville.
Qui a tué Jeanne Queue?
Épisode 7. On murmure dans la ville.
Demandez le peuple.
Édition spéciale.
Édition spéciale dans le peuple seulement.
Demandez le peuple.
Sensationnel en Tullingen.
Le vendredi 26 avril vers 16h, l'émotion suscitée par la mort de Jeanne se ranime.
Dans l'affaire de la rue des Hirondelles grâce au spiritisme.
Dans toutes les rues de la ville, les vendeurs et vendeuses de journaux chantent la nouvelle.
Les révélations sensationnelles d'un médium pour 2 cents seulement.
Que l'on soit socialiste, catholique, libéral de gauche ou libéral de droite, on court acheter l'édition spéciale du peuple. Le quotidien socialiste belge promet des révélations sensationnelles.
Le crime reconstitué grâce à une séance d'hypnotisme.
Un médium ? Une séance d'hypnotisme et du spiritisme ? Ça mérite pas quelques explications ?
Si comme moi, vous êtes fervente adepte de récits de crimes, vous savez qu'il y a toujours un ou une voyante qui apparaît dans toute enquête criminelle qui patine.
Lisez les révélations du médium !
Grâce à l'affaire de la rue des Hirondelles, on apprend que c'était déjà le cas en 1906. Et c'est le plus célèbre des adeptes du spiritisme, j'ai nommé Jean Delville, le peintre symboliste, qui s'est mêlé de l'affaire.
Commence déjà par parler de ce que c'est le spiritisme, avant de parler de ses adeptes.
Le spiritisme, c'est une pratique qui consiste à essayer de communiquer avec les morts grâce à des personnes aux pouvoirs spéciaux qu'on appelle des médiums. Certains disent que c'est une science, d'autres pensent que c'est juste une croyance. Ça fait déjà débat au XIXe siècle. Et c'est là que je me dois de revêtir mes habits de docteur en histoire pour vous expliquer en quelques mots comment le spiritisme s'est imposé dans les pays occidentaux dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est fascinant, déroutant et passionnant comment le magique va s'imposer au moment où les plus grands miracles technologiques auront lieu.
Les villes scintillent de lumière, les voix traversent les fils, les trains défient le vent, les images prennent vie au théâtre du cinématographe et nous, pauvres humains, on essaie encore de parler aux morts.
Ce retour au magique, dit-on, est une réaction au matérialisme ambiant, au scientisme et à la raison. Le spiritisme, à la fois science occulte, nouvelle religion et doctrine ésotérique, traverse l'Atlantique depuis les États-Unis pour s'imposer en Europe. Certains disent même qu'il serait le premier américanisme de la culture européenne. C'est surtout un nouveau jeu mondain. Le spiritisme compte en effet de nombreux aficionados très célèbres. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute Victor Hugo, qui sur l'île de Jersey, de jour comme de nuit, joue aux tables tournantes pour discuter avec sa fille, Léopoldine, disparue trop tôt. Et puis il y a aussi les époux Curie, qui parallèlement à leur découverte sur la radioactivité spontanée, cherchent à expliquer les phénomènes inexplicables. Les esprits, les manifestations occultes, l'au-delà.
Ils ont découvert le radium ? Alors pourquoi pas les fantômes ?
D'ailleurs, au moment où paraissent les révélations d'un médium, Marie Sklodowska-Curie tente elle aussi de parler à un mort. Son mari, Pierre, qui vient de mourir, je vous le rappelle, il n'y a même pas 10 jours. Elle essaie de le contacter à l'aide des vêtements qu'il portait le jour de sa mort. L'histoire prétend que Pierre Curie n'est pas apparu à Marie. L'histoire prétend aussi que Marie aurait continué de parler à Pierre malgré son décès.
En fait, c'est exactement ce que tu fais en ce moment.
Mais revenons à Jean Delville, le plus célèbre des spiritistes belges de la Belle Époque.
Vas-y, continue de faire comme si tu m'entendais pas.
Aujourd'hui, on l'a un peu oublié, mais Jean Delville est célèbre à l'époque. Il est alors l'une des figures majeures du symbolisme belge. D'abord et surtout peintre. Delville est également connu comme poète, écrivain et théoricien de l'art. Mais il est aussi connu comme, je cite, « franc-maçon, théosophe, kabbaliste, astrologue et fondamentalement occultiste ».
J'ai rien capté.
Bref, pour citer son fils, Delville est un spirit éclairé, un médium d'une sensibilité extraordinaire. Convaincu que le spiritisme peut aider la justice, Delville écrit au parquet pour lui conseiller d'user de la méthode psychométrique pour retrouver l'assassin d'Eugène.
Une expérience qui consiste à placer dans la main ou sur le front d'un médium en transé un objet quelconque ayant été touché soit par la victime ou par le criminel, et ainsi, grâce à ce lien à la fois physique et psychique, trouver une piste indirecte ou directe.
Sa lettre restée sans réponse, il décide d'en parler à la presse. Il envoie donc une lettre, celle qu'il a envoyée au parquet, au petit bleu du matin.
On n'a pas hésité à faire l'essai du chien. Pourquoi ne tenterait-on pas l'expérience du médium ? Il y a des précédents, nombreux à l'étranger, où souvent la psychométrie assiste la justice.
Le lendemain, le journal Le Soir republie sa lettre et se moque gentiment de lui. Delville est vexé et leur répond.
On ne joue pas en vain avec les forces de l'invisible, surtout lorsqu'il s'agit d'un cas aussi grave et aussi horrible que celui du crime de la rue des Hirondelles. De plus, l'expérience psychométrique exige une médiumnité spéciale, et je le répète, elle n'a rien à voir avec le petit jeu des tables spirites.
S'ensuit alors une conversation dans la presse sur les bienfaits et les méfaits du spiritisme. Rien de bien passionnant pour notre affaire. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais les Bruxellois, à l'affût de la moindre technique pour résoudre le mystère de l'affaire de la rue des Hirondelles, tentent, quelques semaines plus tard, l'expérience psychométrique. Un journaliste du Peuple décide de raconter l'expérience tentée par l'un de ses supposés amis.
Reportez-vous au 7 février. Allez quai aux pierres de taille. Vous y êtes ?
J'y suis.
Voyez-vous la petite Jeanne Van Kalk ?
Je la vois.
Quelle heure est-il ?
Il est 5h30 de l'après-midi.
Suivez-la. Est-elle seule ?
Non. Elle est accompagnée de 2 autres petites filles.
Par où se dirige-t-elle ?
Vers la rue des Échelles.
Restez en faction.
Que voyez-vous ? Je vois une femme en noir. Elle s'approche de la petite Van Kalk.
Est-ce qu'elle la connaissait ?
Elle l'avait déjà vue 2 ou 3 fois.
Dépeignez ses vêtements.
Elle est habillée de noir. Elle porte un carrick clair avec pèlerine à franges.
Suivez la femme et l'enfant.
Elles vont par la rue du Pélican, la rue du Pont-Neuf, boulevard de la Seine, boulevard d'Anvers, boulevard Botanique, rue du Marais. Elle s'arrête au numéro 40.
Que voyez-vous ?
Je vois un homme s'approcher.
Spoiler alerte, les révélations d'un médium ne révèlent à peu près rien.
Ou, par un heureux hasard, elles suivent toutes les hypothèses de la justice.
Cette séance d'hypnotisme reprend en effet l'hypothèse suivie par la justice. On y retrouve tous les personnages qui ont occupé les pages des journaux en février. Le violeur et assassin de Jeanne et ses deux complices. D'abord la fameuse femme au carrick, celle qui a livré Jeanne à son assassin et qui a été aperçue par la petite vendeuse de journaux. Puis, celui qu'on appelle le porteur de cadavres, l'homme qui aurait déposé le paquet devant le 22 rue des Hirondelles. Les médiums dévoilent l'endroit où le viol et le meurtre de Jeanne auraient eu lieu. Mais le peuple censure le numéro de la maison. Il semble aussi révéler l'identité du porteur de cadavres. Et c'est tout. Mais ça suffit pour que le journaliste du peuple interpelle alors le parquet.
Il est temps que le parquet bouge, qu'il ouvre une enquête sur les dépositions qu'on s'offre à lui faire.
L'article fait son petit effet. Le journaliste parvient même à ses fins. Il est en effet appelé à témoigner devant le procureur du roi. Le 29 avril 1906, le journaliste écrit fièrement
« Une nouvelle instruction est ouverte. C'est une première satisfaction donnée à l'opinion publique. »
Une satisfaction de courte durée. Quelques jours plus tard, le journaliste dénonce l'inaction du parquet.
« Il y a 8 jours que cette déposition a été faite. Qu'a fait le parquet depuis ? Nous n'en savons rien. »
En ce dimanche 6 mai, le temps est radieux. Le centre-ville semble pourtant étrangement désert, car tous les Bruxellois, ou presque, sont ailleurs. Ils sont au cimetière des Verts, où l'on inaugure le monument érigé en la mémoire de Jeanne. Le cimetière est littéralement envahi. Il y a plus de monde qu'un jour de Toussaint, confie l'inspecteur du cimetière. L'émotion suscitée par la mort de Jeanne ne s'est pas tarie. Au contraire, elle est plus vive que jamais. Les articles parus dans Le Peuple ont ravivé le souvenir de la petite martyre de Bruxelles. Mais surtout, ils ont éveillé un espoir. Celui de voir enfin l'assassin et ses complices arrêtés et emprisonnés. À 15h30, la cérémonie débute. Parmi la foule silencieuse, Fernand Wicheler, journaliste et dramaturge, prend la parole.
Voici érigé le monument de l'émotion et de la pitié populaire, mais aussi de l'indignation. Au nom du journal Le Soir et de toutes les personnes qui ont participé à la souscription pour le monument à Jeanne Van Kalk.
Pendant plus de 2 heures, une foule émue se recueille silencieusement devant la stèle de marbre blanc, dans laquelle est encastré un médaillon révélant les traits de la petite Jeanne. Mais ce n'est pas le monument que l'on regarde. Tous les regards se posent sur une seule personne. Françoise, la mère de Jeanne, que l'on dit abîmée par la douleur. Son père est là, ses frères aussi. Françoise ne pleure pas, elle ne dit rien. Il serait plus juste de dire qu'elle ne pleure plus, car il y a 1 mois, au même endroit, elle s'est effondrée, de douleur, de colère. Ce jour-là, on effectuait la translation du corps de Jeanne vers sa nouvelle concession. Et c'est en apercevant le petit cercueil fait de simples planches clouées que Françoise a craqué.
« Ce sont ses petites jambes !»
Elle n'a pas pu retenir ses larmes. Quand elle a vu les 2 cercueils de sa petite Jeanne-queue descendre dans leur nouvelle fosse, elle s'est effondrée. C'est la 2e fois qu'on enterre son bébé. La 2e fois qu'elle doit subir sa mise en terre. N'est-ce pas trop pour une seule et même personne ? Aujourd'hui, Françoise veut rester debout, pour Jeanne. Françoise entend tous les bruits qui courent en ville. Elle sait que quelque chose se trame, que si la justice a oublié sa petite, les gens de Bruxelles, eux, s'en souviennent. Que si l'enquête officielle est au point mort, certains journalistes, eux, continuent de chercher. Elle le sait. Et c'est pourquoi, ce jour-là, elle est restée debout.
Au bon de Charlequin.
Santé.
Santé, hein.
Heilige Maria.
Monsieur Marazio.
Après l'inauguration du monument en hommage à leur Jeanne Queue, toute la famille Van Kalk se réunit à la distillerie d'Anvers. Le cabaret en bas de chez Françoise. Les Van Kalk trinquent à leur peine.
Santé.
Ils trinquent aussi à la solidarité des Bruxellois.
Demain, c'est Van Brussel.
Un homme arrive. Un petit homme barbu. Il se présente.
Excusez-moi. Pardon. Je suis celui grâce à qui les révélations d'un médium ont paru dans le peuple. Et je souhaiterais vous révéler l'identité de la femme au carré.
L'homme les invite à l'accompagner chez cette femme qu'il soupçonne.
Si le parquet ne fait rien, nous, on va agir.
C'en est trop. Ce monsieur a raison. Il faut agir maintenant. Suivons-le.
Ouais, comment ?
Sans la moindre hésitation, les Van Kalk le suivent. L'homme emmène les Van Kalk dans un quartier du nord de Bruxelles. Il sonne à une porte. La supposée femme au carrick ouvre.
C'est vous qui avez vendu la petite Jeanne Van Kalk à son assassin.
Encore vous ? Allez-vous-en, ça suffit maintenant.
C'est vous ! Et je le prouverai !
L'homme et la famille Van Kalk se précipitent alors au commissariat le plus proche.
Ce monsieur sait qui a tué ma fille. Il faut l'arrêter immédiatement.
Ils exigent que la femme soit arrêtée. Ou au moins entendue et confrontée aux petits témoins qui ont vu la fameuse femme au carrick. Mais la police bruxelloise se déclare impuissante.
Mais enfin, pourquoi ?
Je n'en sais pas plus. C'est Armand Varlet qui raconte cet épisode dans les colonnes de La Réforme en juin 1906. Désormais, le journaliste est seul aux commandes de l'enquête sur l'affaire de la rue des Hirondelles. Son collègue et camarade, Crommeling, n'est plus de la partie. Sans doute trop pris par sa carrière de dramaturge.
Oh, d'ailleurs, cette saison, il a fait sensation au Théâtre du Parc, avec sa toute première création intitulée « Nous n'irons plus au bois ».
Armand Varlet est en colère.
Marie-Thérèse Van Overloop est reconnue coupable d'avoir méchamment imputé dans un lieu.
Marie-Thérèse a été condamnée ?
Marie-Thérèse a été condamnée.
Atteinte à l'honneur d'autrui ou à l'exposer au mépris public sans en apporter la preuve.
La sentence est tombée le 30 mai 1906.
La sixième chambre correctionnelle condamne Marie-Thérèse Van Overloop à 2 mois d'emprisonnement, 26 francs d'amende et 1 franc symbolique de dommages et intérêts au docteur Nissen.
Mais non, je te jure.
Le jour de son procès, Marie-Thérèse est absente.
Cette malheureuse créature s'est embauchée, paraît-il, dans un cirque ambulant.
Quelle chance !
L'avocat du docteur Nissen dit vrai. Au moment du procès, sa roulotte est à Béthune, dans le nord de la France.
Waouh ! J'aurais bien aimé, moi, parcourir le monde avec un cirque.
Marie-Thérèse n'aura donc pas l'occasion d'entendre tout le mépris dont fait preuve le ministère public.
La femme Van Overloop appartient à cette classe de la société où le bavardage est facile et l'inconscience grande. Peut-être ne s'est-elle pas rendue compte de la gravité de ses propos.
Le réquisitoire du ministère public le démontre. Ce procès est celui d'une certaine classe sociale.
Qui dira l'impuissance de la protestation d'un homme contre le déchaînement de la foule imbécile ?
Ce procès est surtout celui de la foule. Pourtant, Marie-Thérèse est la seule à payer. Et c'est ce qui pose problème à Armand Varlet. La condamnation de Marie-Thérèse Van Overloop le force à reprendre le combat. Avec sa seule arme, sa plume acérée.
Mon avis est que tout ceci est une parade inutile.
Une parade inutile, car toute l'audience a été consacrée à la défense du docteur Nissen, qui continue, il est vrai, d'être l'objet de rumeurs.
Des confrères du docteur détournent la tête quand ils le croisent dans la rue. Les cartes anonymes pleuvent chez lui. Le docteur a même reçu des poupées à qui on a coupé les jambes, épinglées d'une carte au nom de Jeanne Van Kalk. Un billet accompagnait cet envoi monstrueux. De Jeanne Van Kalk à Charles Nissen, docteur charlatan, spécialité de cul de jatte, la vengeance est proche.
Silence !
En ce 30 mai 1906, tout l'entourage de Nissen a pu témoigner de son impossibilité physique à commettre le crime.
Le 7 février, à 7h30 du soir, je suis resté une demi-heure avec le docteur Nissen. Ce dernier était très faible, courbé dans son fauteuil, en robe de chambre.
L'arbre généalogique de Nissen a été élagué.
On a prétendu que si l'on ne me poursuivait pas, c'est parce que je suis le cousin du procureur du roi. C'est inexact.
Car depuis quelques semaines, les liens entre le procureur du roi et le docteur Nissen continuent de faire jaser. Le médecin est réhabilité publiquement. C'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il espère, du moins. En cet avant-dernier jour du joli mois de mai, Nissen l'a eu, son exemple. Mais comme l'a prédit Varley, cela ne fait pas taire la rumeur. Au contraire, elle enfle. Et soudain, sans crier gare, Marie-Thérèse, de retour en Belgique, fait opposition au jugement.
On aurait relevé dans cette instruction un sérieux vice de forme.
La presse s'emballe à nouveau, le peuple en rajoute une couche.
L'affaire Van Kalk n'est pas enterrée.
Le matin de Bruxelles aussi, la réforme, elle, continue son enquête particulière. Le 25 juin, Varley fait alors une annonce fracassante à ses lecteurs et lectrices.
Des faits étranges se sont passés. Des paroles fort audacieuses m'ont été rapportées.
Qui a tué Jeanneke est une réalisation de Laura Dispourio. Une production de Comme un lundi, avec le soutien technique et artistique de l'atelier de création sonore et radiophonique et le soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que du Fonds national de la recherche scientifique. Recherche et écriture par Laura Dispourio, script docteur Alexandre Mailleux, assistante réalisatrice Laure Tisser. Prise de son Diana Dolce, Valérie Leclerc et Elliot Ratino. Montage Diana Dolce. Musique Valérie Leclerc. Bruitage Céline Bernard. Assistante au bruitage Fanny Roy. Stagiaire au bruitage Luca Condantinidis et Adrien Moujaïd. Prise de son des bruitages Joachim Glaude. Mixage Nicolas Denefeld. Avec les voix de Léna Gérard-Voss et Laura Dispourio, mon historienne. Il y a aussi les voix de Rachel Lemkovitch, Gary Edern, Mila Van Lierd, Marie Massot, Camille Heug, Casimir Schilling, Miles Kuckelbergs, Martin Mersman, Arnaud Capostagno, Anaël Dezablin, Juliane Bordonaro, Arnaud Melin, Sarah Van Praat, Olivier Bertrand, Sophia Félix Canella, Geoffrey Liénard, Renaud Van Kamp, Guillaume Bro, Mohamed Safi, Corentin Squara et Bertrand Delubac.